Bonsoir. Il n'y a pas d'autre voie de sortie des crises que le dialogue. C'est en ces termes que le comité laïque de coordination, celle-ci en sigle, a lancé son appel à l'ensemble du peuple congolais et plus particulièrement aux chefs de l'État ainsi qu'aux principaux leaders politiques et sociaux. Le coordonnateur de cette structure l'a dit hier mercredi au cours d'une conférence de presse au CEPAS ici à Kinshasa. Parmi les multiples problèmes auxquels est confronté le pays, le professeur Isidore Ndaiwel cite la crise sécuritaire au pays et celle liée aux élections. Le CLC appelle vivement un dialogue politique. Quelle lecture faites-vous de la proposition du CLC? Nous en parlons ce soir avec Maître Emery Lukombo. Il est coordonnateur adjoint en charge de l'administration pour le compte du comité laïque de coordination. Maître Emery Lukombo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Jean-Claude Tshilumbaï, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Professeur Jean-Claude Tshilumbaï, bonsoir. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment avec moi dans ce studio, Maître Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Maître Kambéré, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et aussi Christian Moleka, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Akindo Maniema, vous nous suivez sous la 103.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur la page Facebook de Radio Capi ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission via notre site internet www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, le CLC appelle à un dialogue politique au regard de la crise sécuritaire et politique que traverse la RDC. Pour le comité laïque de coordination, il était urgent que le chef de l'État et les principaux leaders politiques et sociaux du pays se mettent ensemble pour identifier les réponses les plus adéquates et les plus urgentes aux multiples équations du moment. On écoute le professeur Isidore Ndaiwel, coordonnateur du CLC, au micro de Chris Bandundu Kiapalai.
Le CLC considère, dans cette optique, qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie de crise que le dialogue. Il serait donc temps que le chef de l'État et les principaux leaders politiques et sociaux du pays se mettent ensemble pour identifier les réponses les plus adéquates et les plus urgentes aux multiples équations du moment. Car une nation profondément divisée à l'interne, comme la nôtre en cette période-ci, ne peut prétendre à la victoire contre l'ennemi, tant extérieur qu'intérieur. Voilà pourquoi, plus que jamais, le CLC demeure vigilant et attentif à l'évolution du moment. Raison pour laquelle il confirme à l'opinion tant nationale qu'internationale que sans une solution consensuelle à cette crise, il se situera en première ligne pour défendre l'intérêt fondamental de la population.
C'était là le professeur Isidore Ndaiwel, coordonnateur du CLC, Maître Emery Lukombo. Je l'ai dit dans l'intro, vous êtes coordonnateur adjoint en charge de l'administration pour le compte du comité laïque de coordination CLC en sigle. Vous appelez au dialogue politique pour régler la crise sécuritaire et même politique liée aux élections que connaît la RDC actuellement. Alors, ce dialogue que vous proposez est-il opportun à moins de 6 mois des élections?
Oui, madame, le dialogue est très important dans la mesure où la situation que traverse notre pays en ces questions ne permet pas...
On ne vous suit pas très bien. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne, Maître Emery Lukombo.
Allô?
Allô, on vous écoute.
Hein? Oui, madame. Je disais qu'il est important, très important que l'on aille au dialogue avant d'aller aux élections. Donc, c'est opportun, c'est vraiment opportun à notre premier temps, on n'y est plus jamais. Il n'est pas toujours tard pour mieux faire les choses. Voilà, il est matin.
Oui, vous dites que pourquoi c'est opportun? Est-ce que le processus ne se déroule pas normalement? Qu'est-ce qui vous pousse à demander ce dialogue?
D'abord, madame, la proposition du dialogue faite par le comité de coordination à travers son coordonnateur national, le professeur Isidore Daywell, c'est une proposition palliative pour la bonne simple raison qu'elle prend en compte les aspects les plus essentiels de la vie de la nation, notamment l'aspect sécuritaire. Vous le savez, la crise sécuritaire dans la partie est de notre pays risque d'envahir l'ensemble du pays. Ici, dans la capitale, nous vivons un climat de terreur et d'horreur. Et l'assassinat récent brutal contre la personne du fait chez Ruben Okende reste un exemple patent. Dans la partie ouest, la situation demeure presque la même. Du point de vue sécuritaire, il y a encore un problème sérieux qu'on doit régler pour que tous les Congolais participent, pour que ces élections soient inclusives. Donc, voilà une deuxième aspect, l'aspect social. Au-delà de la guerre, de l'insécurité toujours présente dans l'est du pays, la précarité accentuée par la hausse du coût de la vie continue à susciter un climat de méfiance entre la population et les politiques. Et ce qui fait que la population ne trouve pas qu'il soit important d'aller aux élections pendant qu'il y a encore des problèmes du point de vue social qui ne sont pas réglés. Du point de vue politique, c'est encore pire. Hein? Les acteurs politiques, l'opposition, le pouvoir se regardent en chat et chat, sont incapables de s'accorder sur les points fragmentaires, sur les éléments fragmentaires pour le bien de notre population. Et vous allez constater que il n'y a pas cohésion, il n'y a pas d'unité dans la nation. Et dans ces climats, aller aux élections, ce n'est pas, à mon avis, répondre aux équations du peuple, aux équations de notre nation. Voilà un thème.
Maître Méhi Lukombo, vous avez parlé de la situation sécuritaire, du social, mais est-ce qu'il ne revient pas au gouvernement de régler ce genre de problème? Faut-il vraiment un dialogue pour résoudre ce problème d'ordre social et sécuritaire?
La sécurité relève de la compétence du gouvernement qui a l'obligation de sécuriser les personnes et leurs biens. C'est vrai, mais madame, ça fait bien longtemps que cette guerre, que cette crise sécuritaire ne prend pas fin. Aussi, on est tous. Mais si la sécurité reste une priorité, parce que ceux qui iront aux élections, c'est ce peuple qui vit dans la terreur, qui vit dans l'horreur, qui vit dans l'insécurité. Vous allez organiser les élections pendant que le peuple est en insécurité, pendant que à l'est du pays, la guerre continue à faire des victimes. Alors, si le gouvernement trouvait peut-être la solution à cette équation, à ces problèmes de l'insécurité, notamment dans l'est du pays, on pouvait imaginer aller aux élections, mais nous pensons que la vie de la nation, la vie du peuple, représente une priorité par rapport aux élections. Donc, voilà madame.
Et ce dialogue que vous demandez aurait quel format?
Bon, là, c'est au chef de l'État à qui le CNC a fait cet appel, donc parmi les destinataires de cet appel. Donc, c'est à lui, en tant que garant de la nation, et tous les partenaires, y compris les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, de voir dans quelle mesure donner à ces dialogues les formats. Donc, la responsabilité comme au chef de l'État à qui tous les peuples comptent. Voilà.
La réalisation nous signale que le professeur Jean-Claude Toulumba est en ligne. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, professeur, comment vous analysez la proposition du CLC qui appelle au dialogue politique pour régler ou résoudre la crise sécuritaire au pays et celle liée aux élections?
Nous sommes, madame, parfaitement d'accord avec le principe que dans une société c'est une famille par évidence, par excellence, et les gens se doivent de se parler, de dialoguer. Mais nous ne partageons pas, précisément nous, à l'IDPS, l'idée que l'on dialogue en ce moment précis, en dehors du consensus national, qui est notre loi fondamentale. Ça signifie quoi? Ici, on vous fait croire qu'il y a crise, et cette crise s'appelle bien évidemment absence des institutions, c'est ce que ça signifie. Qu'on n'a plus de parlement, le cadre consensuel par excellence, le milieu qui nous offre l'opportunité de discuter comme nation, parce que représentée par toutes les couches nationales, tribaux, ethnico-claniques, et qu'on donne l'impression que ce consensus trouvé autour de la loi fondamentale n'a plus d'utilité. Il faut sortir de là pour aller discuter avec soit des gens qui partit se présenter aux élections devant le peuple non recueilli que 500 voix. Ça, c'est évidemment ce qui n'est plus acceptable pour un pays qui veut se démocratiser, un pays qui veut se développer. Nous pensons en réalité qu'il y a lieu, s'il y a besoin de dialoguer, de poser des problèmes, des inquiétudes qui peuvent bien évidemment exister dans la société. Les institutions ont été certainement faites pour cela. Lorsqu'on nous demande aujourd'hui d'arrêter tout, de suspendre les institutions, de nous retrouver, et je ne sais pas sur base de quels critères, comme si le pays n'était fait que pour ça, et que ça soit une récurrence, qu'à tout moment, qu'on interrompe ce qui a été décidé par le peuple souverain, je ne sais pas quelle place on va réserver à ceux qui nous ont élus, moi je suis un élu du peuple. Je ne sais pas quelle explication je vais aller donner, par exemple, à Luisa pour dire que j'ai été mis de côté pour que deux personnes sans aucune légitimité se mettent autour d'une table pour décider du sort de ma nation. Je ne sais pas quelle explication je vais donner à cette population. Donc, nous pensons que le temps n'est plus à ces tergiversations. Nous sommes en plein processus électoral, bien évidemment. Nous ne disons pas que ce processus est parfait et qu'il est irréprochable. Nous sommes un pays qui connaît ses problèmes, des incertitudes en termes sécuritaires dans certains points chauds, c'est qui a toujours été le cas, par exemple en 2006, en 2011 et en 2018. Nous sommes quand même parvenus à voir des processus électoraux qui n'étaient pas aussi réprochables que ce qu'on vit ailleurs, dans des pays tant africains qu'ailleurs. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'en 2018, au-delà de tout, nous avons eu le premier procès électoral qui n'a pas été accueilli par des tirs de balles et dont les résultats n'ont pas été proclamés sur des chars de combat. C'est déjà une grande avancée. Bien sûr qu'avant ce processus, nous savons qu'il y a eu des échecs en termes de ce qu'on a qualifié de glissement et que c'est ce que nous devons désormais corriger. Nous voulons un processus pacifique, inclusif, transparent. C'est ce que nous sommes en train de faire à ce jour.
Alors, vous parlez d'élections inclusives, alors qu'il y a quand même une frange assez importante de l'opposition de la population qui redoute un peu ces élections qui auront lieu au mois de décembre 2023.
C'est un choix. Moi, je m'assume ici comme une IDPS. Ce qu'on nous a reproché depuis que ce processus a commencé, c'était que nous avions l'intention de glisser, nous étions tentés d'offrir et au président de la République et aux autres institutions un peu plus de temps de plus ou de trop par rapport au mandat défini par la Constitution de la République. Nous sommes là en train de démontrer tout le contraire. Et tout ce contraire, c'est que notre disponibilité à participer à ce processus n'est plus à démontrer. D'ailleurs, même cette opposition qu'on présente comme exclue a démontré qu'elle est prête pour participer à ce processus. Moi, je suis un élu du territoire de Guiza. Mes électeurs qui me suivent savent que tout le territoire de Guiza qui connaît, qui a d'abord cette particularité d'avoir un candidat prononcé à la présidence de la République, M. Délice Sanga, est engagé. Lui-même est candidat. Il a déposé sa candidature en bonne et due forme pour participer à ce processus électoral. Notre candidat, c'est dans le Maniema, l'honorable Augustin Matata Ponyo. Il a déposé sa candidature. Moïse Katumbi vous a fait savoir qu'avec son regroupement ou son parti Ensemble pour la République, il participe pleinement à cette élection. Mais que l'on nous dise aujourd'hui que de consulter le peuple souverain, on veut plutôt nous appeler autour d'une table des personnes totalement illégitimes qui n'ont jamais affronté ce peuple, ou soit qui l'ont affronté, qui ont écopé des fiascos.
Et là, vous faites allusion à qui, professeur Tshilumbaï?
À tous ceux qui se jouent, parce que j'ai dit ceci, l'opposition prononcée aujourd'hui s'appelle Moïse Katumbi, s'appelle Délice Sanga, s'appelle Matata Ponyo. C'est ces gens que nous avons vus se prononcer comme opposition. Ces personnages-là sont tous plutôt candidats. Maintenant, qu'on nous propose un dialogue comme préalable à la consultation ou au dialogue national qui est prévu en décembre, 20 décembre avec le peuple, là où nous irons lui poser la question si nous, l'IDPS, nous avons mal travaillé ou bien travaillé, si le président Tshisekedi a mal travaillé ou bien travaillé, qu'on nous dise qu'il faut appeler des gens totalement illégitimes, des gens qui n'ont pas eu le courage ou qui craignent toujours d'affronter ce peuple, que l'on retrace cette démocratie dans un cycle d'opportunisme politique où les gens, ils échappent toujours à cette sanction.
On retient que vous n'êtes pas d'accord avec la proposition du CLC.
Nous ne sommes absolument pas d'accord avec l'idée de contrôler ou de contourner le choix souverain de ce peuple pour nous substituer à son autorité et à sa souveraineté.
Merci, professeur. On va vous redonner la parole. On vous garde encore dans cette émission. Maître Ferdinand Cambéré, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Quelle lecture vous faites de la proposition du CLC? On sait déjà que vous avez boycotté le processus électoral. Ça ne vous concerne pas. Plusieurs fois, vous l'avez répété dans les médias, vous n'êtes pas concerné par ce processus. Aujourd'hui, le CLC propose un dialogue politique avant la tenue des élections. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci, Madame Kelly, de nous avoir associés à ce débat de ce soir. Je salue la présence de mon frère Christian et ainsi que les autres qui interviennent par téléphone, comme Maître Emery ainsi que Maître Tshilumbaï. Bon, je salue moi d'abord ces communiqués de CLC, hein, parce que j'ai l'impression qu'à l'IDPS, ils ont leur lecture de ce qu'on appelle dialogue. Apparemment, le contenu n'est même pas lu de la même manière. Alors que c'est un communiqué qui est clair, les pays, là où l'a placé l'IDPS, il n'est pas prêt à aller comme nation aux élections. Tout simplement parce que le processus tronqué à lui-même, sans ce ni consensuel, nous l'avons toujours dit, la CENI a quand même une loi qui l'organise. Pour composer le bureau de la CENI, il y a une loi. Et pour qu'aujourd'hui Tshilumbaï parle des élections, il fallait qu'il nous dise en quoi une loi qui demande à la partie de l'opposition d'envoyer les membres au bureau. Jusqu'aujourd'hui, Tshilumbaï ne peut pas prouver que les FCC a des
PV. Vous avez un membre au bureau, M. Manara. On va pas revenir sur ces débats.
Si,
les choses ont déjà évolué.
Non, les choses n'ont jamais évolué dans le sens où, pour être membre de l'opposition, il faut présenter les PV de désignation pour avoir qualité. On ne va pas ramasser les gens dans un marché et les mettre là, à la place, à lier place des membres de l'opposition et commencer à parler d'un processus électoral. Ça, l'IDPS le sait, tout le monde le sait. Et donc, même ce que vous avez dit que nous avons boycotté, les élections ne nous concernent, nous n'avons jamais dit ça. Nous n'avons jamais dit qu'on va laisser un couloir, un boulevard à l'IDPS de jouer un match de compétition comme les élections, seul, sans équipe. L'Union sacrée, ça se fait où? Dans quel pays? Pas de quelle démocratie?
Mais vous n'êtes pas engagé dans ce processus.
Est réellement engagé, fait des manifestations, on a fait des déclarations politiques, et s'ils ne veulent pas tenir compte, je crois qu'ils ont un autre pays, ils n'ont pas la RDC comme pays dont on parle. Mais si on parle de la même RDC, alors ils doivent savoir que nous sommes engagés, nous continuons à exiger des élections démocratiques, libres, transparentes et inclusives. Nous continuons à l'exiger, madame. Parce que l'IDPS, il faut qu'il se détrompe. Vous allez parler des élections alors que jusque-là, nous n'avons pas une CENI consensuelle. Vous allez parler des élections alors que les parties prenantes dans un processus, et c'est ce que la lettre ici, les communiqués de CLC parlent. Ça veut dire jusque-là, il n'y a pas un même langage entre les acteurs politiques. Ce qu'on appelle les parties prenantes à ce processus. Il veut inventer ça. Il commence à citer nommément ceux qui ont déposé des candidatures et qu'on connaît bien qu'ils étaient membres de l'Union sacrée. C'est tout ce qu'il a cité là. Et c'est ça. Donc, il ne sait plus lire la propre loi qui organise la CENI, où on parle de la représentativité au sein du bureau de la CENI par rapport au siège qu'on occupe dans le Parlement. Tantôt, il disait que les institutions sont encore là. Et c'est Sanga a combien de députés? Matata a combien de députés par rapport au FCC et tout ce qu'il a cité là? Donc tu vois l'aveuglement et l'entêtement qui les pousse à renvoyer ou à asseoir ou à installer une crise politique dans notre pays. Lorsqu'il n'y a qu'un acteur ou un camp qui croit qu'il est fort par ce qu'on l'a laissé, parce qu'il faut partir de là, madame. Lorsqu'ils ont fait basculer la majorité qui était du FCC et qu'ils ont fait adhérer tout le monde, ça passait par les souverains primaires, les élections. Parce qu'en réalité, même quand on dit qu'on a été bloqué par un cas, un premier ministre, c'est celui qui doit se plaindre par le président de la République. Mais celui-là qui était là, le professeur Ilunga, qui était ici de cette majorité, c'était pas lui qui se plaignait de cette majorité, c'est plutôt Félix. Et une fois qu'il a obtenu cette majorité à violation de la Constitution, ça s'appelle quoi? Sinon qu'une crise déjà politique à ce niveau-là. Sinon qu'un coup d'État institutionnel. Et à partir de ces jours-là, plus rien n'a fonctionné. La désignation des membres de la Cour constitutionnelle, parce que ce sont ceux-là qui sont sur la chaîne du processus électoral pour garantir la transparence, pour garantir la sincérité de ces scrutins-là. On doit avoir une CENI indépendante. À l'absence de l'opposition, à quoi elle est indépendante? Hier, madame, vous avez suivi le président Kadima. Et il faisait son défilé dans quelques BRT, où il se plaignait qu'il n'y a pas engouement des candidats. Là, ils ne sont que seuls.
Ils ont jusqu'à dimanche pour déposer les candidats.
Je vais bien. Mais là, c'est juste leur propre camp. Il se plaint. Et lui, il veut organiser quel championnat? Lorsqu'il sait bien que pour qu'on parle d'un championnat, il faut qu'il y ait une équipe et l'équipe adverse.
Vous, FCC, vous
nous sommes l'équipe adverse.
Vous soutenez ce dialogue. Vous voulez aller à un dialogue.
Nous voulons sauver. Nous n'avons pas le même contenu que l'IDPS en réalité.
Mais pour vous, le dialogue, là, il va servir à quoi?
À sauver le pays dans cette crise.
Partage des pouvoirs,
des postes. Justement, c'est ce que l'IDPS est en train de penser.
Mais on sait comment ça se passe dans ce pays. Lorsqu'on parle dialogue, à la fin, c'est le partage des postes.
Non. Justement, si c'est ça leur idée, ils n'ont qu'à continuer avec ce qu'ils sont en train de faire. Parce que nous, on les regarde, mais nous avons toujours dit qu'il y a l'article 64. Et si vous lisez bien les communiqués du CLC, ils l'ont répété aussi. Parce que le consensus qui a continué que nous avons demandé depuis le départ, mais à laquelle ils font simplement la sourde oreille. C'est ça qu'on est en train de demander encore aujourd'hui. Il faut que vous considériez que le Congo appartient à tout le monde. Et le Congo n'est pas de l'IDPS. Et que tout le monde doit être, lorsqu'on parle des élections, ce sont des élections du peuple, tout le monde doit être pris en considération. C'est l'affaire des parties prenantes, ce n'est pas l'affaire d'un camp qui doit être partout. Nous sommes prêts, vous êtes prêts, vous avez enrôlé les gens, ils n'ont plus ces cartes-là, madame. Les cartes sont effacées. Vous avez enrôlé les gens...
Pas pour tout le monde, c'est pour quelques électeurs.
Mais oui, nous connaissons aussi des circonscriptions. C'était sa carte. Il y a beaucoup, beaucoup à dire par rapport à ce processus électoral. Rien que dernièrement, même ceux-là qui croyaient qu'on peut aller avec cette CENI, rien que demander un audit qui est crédible de ces fichiers électoraux, la réponse c'était quoi? C'était que il n'était pas prêt à recevoir l'audit international, crédible, accepté par tout le monde. Alors que ça a toujours été le cas, même sous Nanga, on a vu l'opposition l'exiger, on a vu Nanga faire auditer son fichier à présence de l'opposition. Mais ici, ils ont dit non. Pourquoi ils disent non?
Et donc,
parce qu'il y a un calcul déjà fait.
Vous soutenez
cette rencontre? Et il n'y a pas que cet aspect. Prenez maintenant l'aspect de l'Est. L'aspect de l'Est, où en réalité, le gouvernement lui-même est aux aveux qui n'a plus le contrôle sur tous les territoires nationaux. Nous n'avons plus Bunagana, Rutshuru, nous n'avons plus Masisi. Et dans l'entretemps, même ceux qui se sont fait arroler, c'était qui? Les M23, c'est qui s'est fait arroler parce qu'on ne veut même pas attendre parler de l'audit. Et avec ça, ils oublient qu'il y a un article 5 de la Constitution où le peuple est en tant que souverain. On doit parler des élections dans l'universalité. Vous ne pouvez pas diviser un
peuple. Maître Kamere, pour vous, il faut repartir à zéro.
Mais ça fait quoi si c'est pour sauver le peuple? Parce qu'organiser les élections dans les conditions actuelles...
Il faut respecter la Constitution.
C'est ça, respecter la condition. Organiser les élections dans les conditions qui permettent... Dans les délais constitutionnels, nous l'exigeons. Et dans les conditions qui permettent à un peuple libre, pas un peuple déjà sous occupation du M23, sous occupation de l'armée de l'Ouganda, sous occupation de l'armée de Burundi, sous occupation de toutes ces armées étrangères que le gouvernement ici a invitées. Il parle de quelles élections?
Alors vous exigez les élections dans le délai constitutionnel, entre-temps vous exigez qu'il y ait ce dialogue-là pour rectifier les tirs, repartir à zéro?
Oui.
On ne va pas respecter le délai.
Madame Kelly, c'est à cela que les CALCC, je salue son courage de le dire. Si l'IDPS aujourd'hui qui est incapable, parce que lorsque vous suivez son discours du gouvernement sur l'action réellement à mener pour qu'avant décembre, elle laisse soit entre les mains des FARDC, soit entre les mains de la police nationale. Il y a incohérence totale. Ils continuent à aller s'agenouiller dans les pays voisins qui ne veulent pas quitter ni l'EAC, ni l'Ouganda, ni le Rwanda. Personne ne veut bouger de là où il est.
Merci,
il parle de quelles élections?
Christian Boleka, vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. À presque 5 mois des élections, je dirais même 4 mois, ce dialogue est-il opportun?
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée d'apporter ma contribution au débat. L'équation électorale, c'est vraiment le mot qu'il faut donner, parce que l'équation électorale, aujourd'hui, et pour beaucoup d'observateurs, pourrait nous conduire vers l'impasse. L'impasse, c'est qu'on pourrait ne pas avoir des élections inclusives, on pourrait ne pas avoir des élections avec un climat apaisé, on pourrait ne pas avoir des élections avec tous les Congolais qui votent, ce qui reste d'ailleurs un droit fondamental constitutionnel du reste, du droit de voter. Et donc, face à cette équation-là, quelles sont les solutions à apporter? Le CLC, comme beaucoup d'autres composantes, tente d'apporter un regard qui me semble assez cohérent avec ses points de vue passés. Si vous prenez le communiqué du mois de mai 2022 du CLC, ce communiqué revenait sur la volonté d'avoir plus d'inclusion et pas de passage de force. La seule différence avec le communiqué d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte d'avertissement en termes de coup de semence dans l'hypothèse où le gouvernement s'efforcerait à aller vers un passage en force. Et donc vous avez un CLC qui propose sa approche d'inclusivité comme dans les passés, mais qui annonce en fait insidieusement, parce qu'il ne le dit pas, mais qui annonce insidieusement un probable retour des mouvements de mobilisation, puisqu'il donne des avertissements en termes de lignes rouges, parce qu'on parle de seule issue. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative, et qu'au dehors de ces alternatives-là, on aura recours à la mobilisation de la rue. Et donc on peut s'attendre à une fin d'année très agitée, avec une CLC qui pourrait rejoindre également la rue. Donc, est-ce que le dialogue comme issue au blocage est nécessaire? Je crois qu'il est nécessaire d'avoir un minimum de compromis. Si vous prenez les différentes déclarations, excepté le pouvoir en place, beaucoup d'acteurs semblent se dessiner de plus en plus pour un compromis. Le problème, c'est que, à la différence de 2018, nous avons des demandes de compromis qui viennent de l'opposition. Alors que en 2018, vous avez une opposition vente en guerre qui disait de dépasser tel délai, le pouvoir dégage. Vous avez aujourd'hui une opposition qui est demanderesse de dialogue. Et donc un pouvoir qui va faire forcément le sourd d'oreille et qui va faire traîner les choses pour pouvoir négocier en bonnes conditions, parce qu'il est, c'est pas lui qui est demandeur de dialogue. C'est l'opposition, aujourd'hui la société civile, qui est demandeur de dialogue. Et donc dans cette perspective-là, le pouvoir a intérêt à traîner les pieds, parce que c'est pas ce pouvoir qui demande dialogue et qui se met dans les conditions de celui qui veut tenir les secrétaires dans les délais.
Mais vous personnellement, en tant qu'analyste, vous pensez qu'il faut le faire, que le pouvoir devrait écouter la société civile, la société civile qui demande le dialogue bien sûr, et l'opposition?
Je crois que le pouvoir lui-même a besoin de... Je ne voudrais pas parler à leur place, mais si vous regardez comment le scrutin s'avance jusqu'à ce jour, les besoins en financement, les contraintes sécuritaires... Rappelez-vous, lorsque le président Kadima faisait son calendrier, il avait relevé des éléments de contraintes. Il s'agit de contraintes financières, de contraintes sécuritaires qui n'ont pas disparu. Et donc, un dialogue profiterait également au pouvoir. Mais stratégiquement, ils ont intérêt à ne pas montrer que c'est eux qui sont demandeurs de dialogue et qu'ils vont attendre jusqu'au dernier moment pour ensuite dire, voilà, c'est l'opposition, c'est la société civile et c'est pas nous. Parce que nous n'avons pas, à ce jour, les conditions d'un consensus minimum pour aller vers les élections. Nous sommes en train d'aller, probablement, comme en 2018, vers les élections qui vont nous amener à de la contestation, éventuellement à une instabilité post-électorale.
Mais est-ce que les années précédentes, on a eu des consensus sur le processus électoral?
Les années antérieures, on a eu des moments, de petits moments de consensus. Rappelez-vous, lorsque le débat a commencé autour de la machine à voter, par exemple, et que tout le monde rejetait le vote électronique, quoique la CENI a conservé la machine, la CENI a travaillé à construire une communication pour démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un vote électronique, mais d'un vote manuel. Et d'ailleurs, beaucoup d'efforts ont été faits pour, à la fin, montrer qu'il s'agissait d'un vote manuel. Alors que l'idée de départ, c'était d'aller vers un vote électronique également. Donc il y a eu des passerelles de communication qui ont été maintenues. Vous prenez la problématique de l'audit du fichier. Rappelez-vous, il y a quelques années, l'UDPS avait fait de l'audit du fichier un enjeu important. Et que dans le passé, l'audit du fichier a été mené avec des délégués de l'opposition pour essayer de rassurer les différents partenaires. Donc il est possible également, avec l'UDPS au pouvoir, de faire des passerelles pour construire un processus consensus. Parce que rester dans une sorte de fixisme ne nous aiderait pas à avancer, parce que ce fixisme-là nous conduira vers l'impasse, et l'impasse ne donnera pas au pays la stabilité. Il faut peut-être ajouter qu'à la différence de 2018, aujourd'hui, nous avons un environnement hostile plus aguerri, avec des menaces extérieures sur la sécurité du pays qui sont plus poussées, qui sont plus affirmées, et qu'une division en interne, une fragilité en interne pourrait nous prédisposer à des menaces extérieures plus grandes qu'en 2018.
Alors, on va prendre pour vous, Christian Moleka, cet auditeur Alpha qui nous écrit, qui nous appelle depuis la province de la Tchopo. Il est dans la ville de Kisangani.
Alpha Ben Sirac, depuis la province de la Tchopo, ville de Kisangani. À mon humble avis, c'est une bonne idée de dialoguer afin de réunir toutes les parties prenantes pour une bonne organisation des élections à venir. Sans cela, il n'y aura pas une entente parfaite entre les parties prenantes. Actuellement, toutes les parties prenantes savent bien que les processus électoraux actuels subissent des graves problèmes de notoriété, des logistiques, des financements, j'en passe. Même le président de la CENI le sait très bien que le chemin sur lequel il marche ne l'amènera nulle part. Au contraire, ça pourrait engendrer des zizanies. C'est pourquoi nous pensons que le dialogue tel que proposé par les CLC est l'unique voie démocratique pour pallier à tous ces problèmes. Un proverbe africain dit « Le dialogue est une des armes les plus puissantes. Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à consentir avec obstination au dialogue », a dit Félix Houphouët-Boigny.
Alors, cet auditeur vous rejoint un peu dans votre analyse. Tout à l'heure, il est pour le dialogue, mais entre-temps, il y a d'autres qui nous écrivent sur la page Facebook de Radio Kati, qui sont très nombreux d'ailleurs, qui disent ceci, nous n'avons pas besoin de ce dialogue, c'est une distraction, nous exigeons l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, c'est Dieudonné Capalou qui nous écrit, Deo Gracias, nous ensemble pour la République, nous sommes prêts pour les élections, pas des glissements. Notre auditeur qui nous écrit de Mbujimayi, Alex Kalimba, nous avons besoin des élections, pas des dialogues. Les avis sont partagés.
Oui, très partagés, on comprend très bien, mais il faut qu'on se pose des bonnes questions. À quoi servent les élections? Les élections servent à construire la stabilité, simplement de la stabilité. C'est-à-dire c'est un mode de dévolument de pouvoir dans un État pour asseoir la stabilité nécessaire au développement. Si les élections ne vous aident pas à avoir de la stabilité, ces élections ne servent à rien. Parce que le concept, ce n'est pas simplement élection. Le concept, c'est élection inclusive, transparente, crédible, apaisée. Est-ce que nous pouvons avoir, à ce stade, des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées? Tant mieux. Si nous pensons de pouvoir les avoir, tant mieux. Sinon, nous allons, comme dans le passé, avoir des élections qui vont pas nous aider à régler le problème fondamental qui est de la crise de légitimité que nous traînons depuis 60. Et donc à aller vers les promoteurs de développement avec la stabilité nécessaire. Ça veut dire que nous aurons des élections, oui, nous aurons ensuite de l'instabilité politique, nous le savons, et puis nous irons à perdre 2 années autour de recherche des vérités des urnes, gouvernement d'union, et donc on remettra à demain les questions de développement. C'est un choix politique. Si nous pensons qu'avec des mauvaises élections, nous allons avoir de la stabilité, tant mieux, mais c'est moi j'estime qu'il nous faut renforcer des personnels de compromis pour avoir un minimum de consensus et aboutir à de la stabilité. Le pays a besoin de stabilité.
Maître Meri Lukombo, on va rester à Kisangani pour écouter cet autre auditeur. Ça sera pour vous.
Moi, c'est Henri Kassongo, Moulenda depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Malheureusement, les dialogues de la République démocratique du Congo n'aboutissent qu'au partage des postes et les problèmes restent. Moi, je pense que les gouvernements doivent tout simplement prendre les responsabilités en main. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir étaient dans l'opposition et la population était contente de voir un opposant à la tête du pays. Mais nous assistons à ce qu'on a reproché à l'ancien régime. Selon moi, la seule voie de sortie des crises reste les élections.
Maître Méry.
Ok, merci madame. J'ai remercié l'intervenant. Je respecte son point de vue. Les dialogues proposés par les CNC, ça on doit les savoir. C'est un dialogue des hauts responsables. Un dialogue qui n'aura pas besoin de réunir plusieurs personnes comme dans les passés. Hein, c'est qu'on a dit. Donc c'est un dialogue qui doit respecter ou qui doit se faire en mettre le plus bref possible. Si les gens sont conscients, si les gens sont vraiment amoureux de leur pays, un dialogue pour décanter le problème du pays, on n'a pas besoin depuis des 3 jours. On n'a pas besoin depuis des 20 personnes. Donc, le responsable, les hauts responsables de la nation peuvent se réunir et proposer des pistes de solutions aux équations que nous avons. Ce n'est pas un dialogue pour le partage de pouvoir. Ce n'est pas un dialogue. C'est un dialogue qui a pour objectif le partage de pouvoir. C'est un dialogue pour répondre à une question fondamentale. Madame, nous sommes maintenant à la 4e expérience en matière des élections. Donc, ce processus, c'est presque le 4e. Les 3 processus électoraux passés ont-ils amené quelque chose? Ont-ils résolu le problème du pays? La réponse est non. Mais nous sommes entrés de dire des choses comme si nous n'avons pas besoin de nous dire la vérité en face ou d'accepter la réalité. La réalité, c'est que la nation est divisée, le peuple est divisé, et dans ces contextes, dans ces climats de terreur et d'horreur, comment voulez-vous qu'on aille aux élections? Alors, si élection pour répondre aux besoins des politiciens. Je pense qu'ils n'auront pas résolu notre problème. Donc, on doit aller aux élections, lesquelles doivent répondre aux problèmes de la nation, aux problèmes du peuple, et non aux problèmes des politiciens. Donc, les CNC ne proposent pas un dialogue qui aura pour but le partage du pouvoir. C'est un dialogue entre les Congolais. Un dialogue des hauts responsables. Moins de 20 personnes, par exemple, dans moins de 7 jours, on peut toujours proposer une piste de solution, et voilà. Donc, le dialogue que propose le CNC, si on le prend en considération, on peut le faire même avant la date de la prévue, la date de la tenue des élections telle qu'est prévue par la Constitution. Donc, voilà le thème.
Professeur Tulumbayi, vous allez réagir aux propos de Maître Emery Lukombo qui nous parle un peu du format du dialogue dont fait allusion le CLC. Mais avant cela, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Japhet Eunga depuis la ville de Kinshasa. Pour éviter des contestations et des morts dans les prochains scrutin électoral, il est impérieux d'aller au dialogue pour baliser le chemin du processus électoral de 2023. À mon avis, je soutiens l'idée de CLC d'aller au dialogue non pas pour le partage des postes, mais pour trouver un consensus afin d'avoir de bonnes élections qui garantira la cohésion et les problèmes de la légitimité des dirigeants. De ce fait, nous invitons les chefs de l'État de s'impliquer personnellement afin que tout le monde accepte d'aller dans ces élections, car si toutes les parties prenantes acceptent d'aller, ça montrerait à la face du monde que l'état de droit existe réellement en RDC.
Professeur Tulumbayi.
Madame, je ne suis pas seulement un avocat, je suis un politicologue. Maître Lukombo ne va pas nous donner l'exception d'un dialogue qui a existé sur cette terre, un dialogue politique qui a existé sur cette terre qui n'a pas débouché sur le partage du pouvoir. Ceux qui réclament le dialogue veulent que le pouvoir se partage dans des combines. Même lorsqu'ils donnent la composition ou la configuration de ce dialogue. Et ça, c'est lui qui lui dit que les mamans maraîchères n'ont pas besoin de participer pour poser leurs problèmes. Qui lui dit que les enseignants que nous sommes n'ont pas besoin de participer pour poser nos problèmes. Qui lui dit que ce dialogue resterait un seul problème des partis politiques qui, d'ailleurs, ont leurs problèmes aussi d'engagement politique et de participation au partage du pouvoir. Nous disons que ces pratiques doivent être bannies et nous les avons abandonnées, elles sont derrière nous. Maintenant, si j'ai bien compris ici, même lorsque Maître Kambere, Donald Kambere que je salue, parle de la désignation de membres de la CENI, comme s'il parlait des nouveautés, alors qu'il sait que cette CENI tenu par comme membre un certain honorable Kalamba qui était issu des rangs de l'UDPS, un député élu de l'UDPS qu'ils ont désigné à leur guise, et qu'il parle de la désignation de membres de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est des leçons qu'il veut nous apprendre à nous, alors que c'est des principes qu'ils ont cristallisés dans leur gouvernance. Ils parlent du coup d'État constitutionnel alors qu'ils ont eu un certain Sami Badibanga Premier ministre, alors qu'il était un élu de PES, avec qui ils ont dû faire les choses comme ça peut se faire. D'ailleurs, en démocratie, nous avons considéré cela. Le dialogue signifie partage de poste. Il n'y a jamais eu de dialogue sans partage de poste. Le communiqué du CLC, nous ne sommes pas opposés à ce que les Congolais s'expriment. C'est un communiqué lorsqu'il fait appel à l'article 64. Ça se décide par le peuple, pas par un groupe d'individus. Nous aurions voulu, nous, assister à un peuple qui dit qu'il n'est pas d'accord avec la gouvernance, c'est-à-dire il est plutôt nostalgique de la gouvernance Kabila pour qu'il se soulève, qu'il soit dans la rue pour qu'on comprenne que le peuple revendique, pas pour que les gens qui estiment avoir tout perdu dans leur turpitude et qui estiment que désormais, parce que leurs intérêts égoïstes et cupides ne sont pas protégés, il faut aller au dialogue, ça ne se fera plus comme ça.
Mais qu'est-ce qui vous gêne, professeur, si l'on organise ce dialogue, un dialogue d'un ou deux jours, qu'est-ce qui vous gêne?
Ce qui nous gêne, c'est que nous n'avons jamais appris de Tshisekedi, de mettre le peuple de côté et de négocier son sort autour des aventuriers, des gens qui pensent que le pouvoir, c'est une affaire de leurs intérêts personnel. Non. Nous avons eu un pouvoir issu du peuple souverain. Nous ne le remettrons qu'entre les mains du peuple, pas entre les mains d'un imposteur quelconque. Nous allons remettre ce pouvoir au peuple.
Faut-il aller aux élections sans la paix dans la partie est du pays?
Mais lorsque même on dit avertissement contre un passage en force, je ne sais pas ce que ça signifie, parce que l'opposition la demanderesse d'aujourd'hui, c'est une opposition à l'air. Le peuple n'est pas avec cette opposition. Bon, si on dit que nous allons aux élections avec l'instabilité, dites-moi, citez-moi le nom d'une seule élection que nous avons tenue dans ce pays depuis 2006, dans la stabilité. Et cette instabilité est créée par l'honorable Kambere et son parti où c'est sa mouvance politique. Non, les contraintes électorales, nous les surmontons du jour le jour. Aujourd'hui, vous avez appris que le gouvernement a mis à la disposition de la CENI 200 millions de dollars. C'est pour surmonter les contraintes électorales. Nous nous armons. Nous armons le pays. Nous formons les militaires pour défendre l'intégrité du territoire et sécuriser ainsi toutes les activités, pas seulement électorales, sécuriser nos enfants, nos écoliers, et les étudiants, sécuriser les mamans qui doivent faire leurs travaux champêtres, sécuriser tout le monde. Si la sécurité dans l'entendement du PPRD ou du régime Kabila devrait signifier que ça soit seulement les élections qui la méritent et que toute autre personne ne mérite pas la sécurité, nous ne comprenons plus cela. Ce que nous voulons dire, c'est quoi en fait? Nous voulons le dialogue. Nous sommes d'accord avec le dialogue, il se tiendra le 20 décembre.
Merci.
2023, avec le peuple congolais dans son ensemble, et le peuple sera en face de nous, demandeurs de la gouvernance au prix de lui, chacun dira ce qu'il veut.
Merci,
et le peuple
va décider professeur, vous l'avez déjà dit. Merci, on vous a suivi, professeur Maître Kambere. On lance une réaction pour vous.
Bon, quand je suivais le professeur Chilumba, je suis en train de me demander si c'est le même que je connais. Lorsqu'il parle de la CENI, il parle de la vieille loi, portant la loi organique, la sienne qui est déjà modifiée et promulguée. Professeur Chilumba, tu dois savoir que la loi qui organise aujourd'hui la CENI, elle demande, elle n'est plus l'ancienne, par laquelle Kalamba était allé à la CENI, par la volonté de son groupe parlementaire qui était l'IDPS. Et pour corriger cela, aujourd'hui, on a demandé que ce soit la famille politique qui désigne et ce n'est pas un procès verbal. Tant que vous n'aurez pas de preuves que les gens que vous appelez membres de l'opposition, qui sont à la CENI, qui ont des PV de désignation, qui sont venus du FCC, vous êtes en tort, mon frère. Laissez de parler du peuple. C'est pas l'IDPS qui est le peuple. Le peuple est là. Et l'article 64, il faut pas lire l'article 64 à la manière de l'IDPS. C'est tout Congolais qui a le devoir de faire échec. Donc ne croyez pas que tout vous est donné, tout vous est laissé. Si vous aimiez le pays, vous pouviez suivre bien cette voie qui vient du CLC. Parce que madame, ce pays, le Congo ici, c'est un pays de consensus. Léopold D ne voulait pas avoir le consensus de tous ses partenaires avec qui il a obtenu les frontières de Congo ici. On l'a chassé à 1908 et il est mort quelques mois après. La colonie belge a dirigé aussi ces pays, mais elle est partie plus tôt que ce qu'elle croyait. Donc les Belges sont partis. À l'indépendance, ceux qui ont torpillé les régimes de démocratie,
qui aujourd'hui ils ont fait les impairs et qui veulent donner des leçons aujourd'hui, alors qu'hier ils sont bénéficiaires d'une alternance démocratique, pacifique et apaisée, aujourd'hui ils veulent nous amener dans une crise où ils sont seuls à face du peuple et ils se croient plus grands que le peuple. Nous, on n'est pas demandeurs de ces dialogues-là. En tout cas, les dialogues tels que vient de l'expliquer le CLC, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Personne n'a besoin de ces postes avec eux. Ce que nous demandions, et ça ne ferait même pas 3 jours, si on demandait au FCC d'envoyer les PV de désignation. C'est une question d'un jour ou de deux. Mais ils ont refusé. Ça fait une année que nous faisons la même chose. Mais comme ils sont dans un calcul d'amener le pays dans un chaos et laisser l'est du pays à leurs amis à qui ils ont donné des accords pour que, à l'issue des élections chaotiques, ils cèdent une partie du territoire, ils verront les peuples sur
alors,
leur route.
C'est des affirmations que
c'est la constitution. C'est la constitution.
Lorsque vous dites qu'ils vont céder une partie du pays.
Si, madame, parce qu'organiser des élections dans ces conditions-là, où vous voyez un Kadima tel qu'il a distribué les cartes là, on ne sait pas à qui, à l'est. On demande que les fichiers soient audités. Ils s'opposent. Comment vous le savez, madame? N'affirmez pas ici. Nous sommes sur Radio Capi. Pourquoi ils s'opposent à ça? Pourquoi ils s'opposent à ça? Pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait une CENI consensuelle? Ils parlent de la Cour constitutionnelle. Il y a une loi aussi organique qui organise le fonctionnement et la composition de la Cour. On sait comment on remplace et tout ce qu'il y a eu comme violation, ils savent bien.
Machango, voilà. Lungunda Cédric, la sentinelle du peuple, comme lui-même a écrit, depuis Kongolo dans la province du Tanganyika, personnellement, je ne suis pas pour le dialogue, car c'est un plan de l'opposition qui vise à chercher les intérêts personnels
non,
en se partageant le pouvoir.
De là que nous disons que l'opposition, surtout nous de la résistance, on n'est pas demandé de ces dialogues, de ces genres dont il faut appeler les maraîchers, il faut appeler les wewa, il faut appeler comme vient de le dire. Nous, ce qu'on veut, c'est respecter la loi. Pour composer la CENI, il y a déjà une loi. Pour composer la Cour constitutionnelle, il y a déjà une loi. Ce n'est pas un travail de maraîchers, ce n'est pas un travail de wewa. Non, qui cesse de tromper les gens, que les gens ont besoin de postes pour aller voler
alors,
comme
eux. Nous, on n'est pas besoin de ça. Maître Kambéré,
justement, nous sommes en train de dire les contenus de mon dialogue, alors que c'est le consensus que nous avons toujours voulu avoir autour du processus électoral démocratique, inclusif, transparent, pour que nous tous, nous nous engageons dans un processus où le peuple sera appelé à élire de nouveaux dirigeants de demain, pour que nous ayons un gouvernement réellement légitime, Christian l'a dit, parce que c'est avec un gouvernement sérieux et légitime qu'on saura affronter tout ce qu'ils ont semé à l'Est, avec tous ces accords qu'ils ont donnés à l'Ouganda, qu'ils ont donnés au Rwanda, qu'ils ont donnés au Kenya, alors qu'au Kenya, il y a aussi des crises. Ils ont leurs propres crises qu'ils ne savent pas résoudre. C'est à eux qu'il faut laisser pour qu'elles trouvent des solutions à nos problèmes. Non, nous refusons. En tout cas, la majorité de la population refuse.
Merci, Maître Kambéré. Christian Moleka, votre conclusion, vous pensez vraiment que on va arriver à ce dialogue?
Le constat, c'est que nous sommes en train de courir 4 cycles après, derrière des élections fondatrices qui vont asseoir la stabilité et nous permettre de régler le problème de légitimité. 4 cycles après, nous sommes en train de faire pratiquement ce qu'on dit le rond-point, nous tournons en rond et les élections de 2023 ne seront pas très loin de ce que nous avons eu en 2018 et encore pas très loin de ce que nous avons eu dans le passé. Et donc malheureusement, le pays continuera à tourner en rond sous des problématiques politiques et remettre en arrière-plan les questions de développement parce que la stabilité est le premier élément pour avoir le développement. Sans stabilité, nous allons patauger dans les dialogues post-électoraux. Les dialogues, on l'aura avant ou après les élections. Si on ne l'a pas avant, on l'aura après parce que la stabilité politique nous conduira forcément vers une recherche de compromis. Et là encore, on dira que le mandat est très court. Il faut allonger parce qu'on a perdu du temps à discuter.
Merci. Et vous estimez donc qu'il faudra aller au dialogue avant les élections
si
pour vous?
Moi, j'estime qu'il nous faut un compromis. Un compromis demande. Le mot dialogue dans la compréhension congolaise, je ne le partage pas. Le président Kadima a reçu au moyen de le cadre de consultation les opposants. C'était une forme de dialogue. C'était dans le cadre du cadre de consultation de la CENI. Donc il y a des moyens de créer des passerelles sans parler de dialogue politique à la Sun City ou à la cité de l'OIA. Donc il y a des cadres à créer pour créer des compromis autour du processus politique et permettre plus d'inclusion que d'avoir un dialogue politique à la Sun City.
Maître Emery Lukombo, votre conclusion.
Ok, merci madame. Madame, je pense que lorsqu'on pense qu'on est au sommet, on n'a plus rien à faire que se jeter dans le vide. Si l'on fait des élections paisibles, crédibles, apaisées, on a tout intérêt à écouter les autres. On dit un homme sage voit les mal d'un homme. Le CLC voit le mal venu de tout le pays. Et nous sommes d'ailleurs en train de le vivre, à moins que vous soyez aveugle pour ne pas le vivre de la même manière que le CLC le voit. Alors, pour éviter les chaos au pays, nous avons besoin de nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble pour répondre aux questions fondamentales de notre peuple.
Merci.
Les élections.
On n'a plus beaucoup de temps, Maître Emery Lukombo. Merci. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Professeur Jean-Claude Chilumba, votre conclusion.
La loi a donné toutes les garanties en termes de témoins, en termes d'observation électorale, en termes aussi de délivrance de procès-verbaux et de proclamation des résultats bureau par bureau. Je crois que nous n'inviterons pas les anges pour siéger à la CENI, allons aux élections. Tout ce que nous attendons ce jour, ce ne sont plus ces divertissements-là, ces distractions. Nous irons aux élections avec le peuple, pas avec les politiciens, pas avec les individus qui pensent que ce pays leur appartient, qui doit leur appartenir éternellement. C'est avec le peuple que nous irons aux élections.
Merci, professeur. Merci. Merci, maître Combert et Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guimaté Dunamadimba, Alain Goy, Clément Chibanga, merci beaucoup. Merci aussi aux invités d'avoir pris part à ce débat, présentation et coordination. Kelim Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.